14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Boris Berezovsky, 67 ans, qui vient d'être retrouvé mort, était le plus anti-Kremlin de tous les exilés russes venus s'installer en Angleterre. C'est le quatrième richissime exilé russe à mourir soudainement depuis 3 ans. Scotland Yard, pour le moment, qualifie cette mort soudaine de l'ennemi juré de Poutine d'inexpliqué.
Bonjour, Boris Berezovsky aura vu tomber autour de lui ses meilleurs amis, ses plus précieux conseillers, les piliers de sa garde rapprochée. Une troublante série de morts naturelles, d'imprévisibles crises cardiaques, avant de succomber à son tour au début du printemps 2013 dans son manoir anglais. Suicide, comme vont s'empresser de le dire les autorités, ou plutôt crime, comme va le clamer sa famille et une poignée d'intimes. L'assassinat discret de l'un des ennemis déclarés de Vladimir Poutine, un oligarque en exil qui appelait de ses voeux à la mort du maître du Kremlin. 9 ans après les faits, on ne sait toujours pas ce qui a tué Berezovsky, une profonde dépression comme cela a été raconté, ou bien une main étrangère pour en finir une bonne fois pour toutes avec un homme trop bavard. S'agirait-il d'un crime presque parfait derrière lequel s'est toujours profilé l'ombre de Vladimir Poutine et de l'ex-KGB? Question posée aujourd'hui à nos invités.
14h30, 15h30,
l'heure du crime sur RTL.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Boris Berezovsky, cet oligarque russe, ennemi juré de Vladimir Poutine, est retrouvé sans vie au printemps 2013 dans sa vaste maison à l'ouest de Londres. Fait-il partie de la longue liste de morts suspectes qui pourraient être téléguidées par Moscou ? Ce samedi 23 mars 2013, peu après 14h30, Avi Navama termine son jogging dans les allées qui cernent Titness Park, une grosse bâtisse accolée à un étang et posée dans la campagne d'Ascot, à une quarantaine de kilomètres de Londres. Le garde du corps attitré de Boris Berezovsky, à son service depuis maintenant 6 ans, rentre dans la maison pour se changer. Navama, un ancien du Mossad, les services secrets israéliens, note tout de suite sur la table du salon la présence de 2 téléphones portables de son patron. Il est intrigué, car celui-ci ne s'en sépare jamais et répond immédiatement à ses interlocuteurs. Dans le cas présent, plusieurs messages sont restés sans réponse. Le garde du corps fait le tour des pièces. Aucune présence de Berezovsky jusqu'à la salle de bain qui est verrouillée. Il frappe à la porte sans succès, puis la défonce à coups de pied. Il découvre alors le corps de son patron, allongé sur le dos, apparemment sans vie. Avi Navama remarque que Berezovsky porte son écharpe préférée en cachemire noir qui lui en serre fortement le cou. Un autre bout de l'écharpe est resté accroché au montant du rideau de douche. Les secours sont appelés à 15h18, tout comme la police. Au regard du pédigré de la victime, la Thames Valley Police, qui a autorité sur le secteur, prend immédiatement contact avec Scotland Yard. Le commissaire Kevin Brown et le directeur d'enquête, Mark Bissell, sont rapidement sur les lieux. Ce qu'ils découvrent a tout l'air d'une scène de suicide plutôt que d'une scène de crime. Boris Berezovsky, 67 ans, était tout seul quand le drame s'est produit. Aucune trace de violence ou de bagarre dans la salle de bain. L'homme d'affaires ne porte pas de marque de coups, il est normalement habillé comme s'il allait sortir. La police redouble de précautions, ayant toujours en mémoire l'empoisonnement en 2006 à Londres de l'ancien espion Alexandre Livinenko, un ami de Berezovsky. Des enquêteurs d'autant plus sur leur garde qu'un ambulancier affirme que son dosimètre, un appareil permettant de détecter la radioactivité, s'est déclenché dans la maison. Les lieux sont bouclés. Pendant 2 jours, des experts de la police scientifique scrutent, explorent la demeure et ses dépendances sans résultat probant. Le corps de l'oligarque est transporté dans la nuit, de dimanche à lundi, à la morgue. Impossible de déterminer avec exactitude ce qu'a fait le millionnaire russe depuis la veille, 22h30, heure de sa dernière apparition. Et pourquoi personne ne s'est inquiété de son absence pendant toute la matinée? Je l'ai trouvé gisant sur le dos, la tête tournée vers le plafond, à côté des toilettes. Son visage avait une couleur mauve, son corps était froid et raide, répète le chauffeur garde du corps. Sans attendre les résultats de l'autopsie, c'est la thèse du suicide qui est privilégiée. Nous n'avons aucune preuve de l'implication d'une tierce personne, affirme le commissaire Brown. Boris Berezovsky était certes un ennemi juré de Vladimir Poutine, il appelait à sa destitution, mais il était également très déprimé, en proie à la mélancolie et même au bord de la faillite, affirme aussitôt certaines de ses connaissances. Berezovsky, le battant, aurait donc été gagné par les idées noires et la dépression. Et on va voir dans cette heure du crime si cette thèse, celle du suicide, va l'emporter ou bien si l'assassinat est plausible, une mort téléguidée depuis Moscou. Pourquoi pas ? Ces bons baisers de Russie, c'était le titre d'un célèbre James Bond qui pourrait donc être des baisers mortels, des baisers peut-être empoisonnés. Bonjour Philippe Comte.
Bonjour.
Merci d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes, je vais dire, le meilleur spécialiste actuel de la Russie. Ben, je vais exagérer, pas seulement pour vous faire plaisir, mais c'est la vérité. Maître de conférence honoraire de langue et civilisation russe à la Sorbonne. Ma première question, elle est toute simple, Philippe Comte. Qui est Berezovsky et qu'est-ce qu'il fait à Londres, en Angleterre, dans ce manoir ?
Berezovsky, c'est un des grands squales géniaux et... plein d'initiatives des années 90. C'est un des symboles des années 90 qui resteront attachés quand même au nom de Boris Yeltsin. Il est né en 1946 dans une... Son père était directeur d'une petite usine de briques, une briqueterie, et c'est un brillant étudiant de l'université de Moscou, le MGU. Il fait ensuite une thèse en sciences de gestion et il ira jusqu'au doctorat en 1983. On se demande si c'est lui qui l'a écrit, son doctorat, enfin sa thèse, ou si c'est quelqu'un qui l'a écrit
pour... Mais il prospère.
Mais voilà, il se destine pour l'instant à une carrière de scientifique. Il entrera un jour à l'Académie des sciences comme candidat au titre des sciences de gestion. Et puis en 89, profitant des nouvelles lois adoptées par Gorbatchev en 87 et 88, il se lance dans les affaires. Et alors là, entre 89 et 94, on a 5 ans où il devient un des hommes les plus riches de Russie.
Très rapide, 5 ans. Ascension spectaculaire.
Ensuite, à partir de, disons, de, pour résumer, 93-94, il va se lancer en politique. Il va être un des principaux soutiens de Yeltsin lors de sa réélection en 1996. C'est lui qui va organiser ses concurrents, d'autres oligarques, d'autres richissimes russes aux affaires à ce moment-là, et pour les fédérer, les structurer, et faire en sorte qu'avec leur puissance de feu en termes financiers et en termes aussi de médias, ils fassent réélire Yeltsin une deuxième fois, alors que la partie est perdue d'avance. Il jouera un rôle aussi dans la guerre en Tchétchénie. Peut-être que nous aurons l'occasion d'y revenir.
Peut-être, on va voir.
Et 99, ça peut être...
On va voir. Je voudrais juste encore un mot, Philippe Comte. Il va favoriser l'ascension de Poutine. Derrière lui. Oui. Puis ensuite, il va être un opposant déterminé. Oui. Et lorsqu'il meurt, on peut dire que c'est... Il fait partie vraiment de la liste noire de Poutine. C'est quelqu'un que Poutine déteste et lui déteste Poutine.
Oui, en tout cas, dès la fin de l'année 2000, le milieu de l'année 2000, il se retourne contre celui qu'il avait soutenu dans son ascension au pouvoir. Ce n'est pas lui qui a mis Poutine au pouvoir. En réalité, Poutine, c'est l'homme de ce qu'on appelle à l'époque la famille, c'est-à-dire le groupe restreint autour de Boris Yeltsin, ses filles, l'une de ses filles, et un certain nombre de hauts fonctionnaires de l'État et de grands patrons, et puis évidemment des hommes des services spéciaux. Poutine, en fait, et Berezovsky, à mon avis, ne l'a pas vu venir. Poutine est l'homme des services spéciaux, il est un de leurs hommes, il est un de leurs officiers d'ailleurs, et il va être porté au pouvoir par cette pyramide discrète mais très efficace.
Et
il va se retourner, pour répondre à votre question, il va se retourner contre lui dès la mi-2000, et en comprenant qu'il avait fait une énorme erreur parce qu'il voit venir un régime autoritaire qu'il n'a pas voulu.
Voilà, régime qu'il n'a pas voulu, et c'est la raison pour laquelle on va le retrouver à Londres, où on retrouve Marie Billon. Bonjour Marie.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans l'heure du crime en direct depuis Londres. Vous êtes correspondante à RTL à Londres et votre expertise nous est précieuse pour mieux connaître ce contexte. Lorsque Berezovsky meurt, et même avant, on peut dire que Londres, on va surnommer cette ville, je crois, Londongrad, parce qu'il y a plein d'oligarques qui sont installés là-bas.
Absolument. Et les oligarques, en tant que donc personne enrichie après la chute de l'URSS, oui, il y en a énormément qui ont choisi d'avoir un pied-à-terre à Londres. Certains sont des amis de Poutine et viennent y cacher leur argent sale. D'autres sont des opposants au régime qui viennent se réfugier ici. Alors leur argent n'est pas forcément plus propre ou plus sale. S'ils ont choisi la capitale britannique, c'est parce que pendant longtemps et aujourd'hui encore, peu de vérifications quant à l'origine des fonds
Bien
ou
sûr.
Même l'identité du propriétaire de ces grandes villas sont effectuées. Elles sont enregistrées avec des sociétés écrans ou bien offshore. Alors il y a beaucoup d'oligarques à Londres, surtout dans le quartier chic de l'ouest de Londres à Belgravia. Selon l'ONG Transparency International, il y a un portefeuille immobilier de 1,8 milliard d'euros détenu par des Russes en particulier et des Russes accusés de crimes financiers ou entretenant des liens avec le Kremlin. C'est pour ça que Londres a gagné un surnom comme Londongrad ou alors aussi Moscou sur Tamise.
En dépit des indices, les proches de l'oligarque en exil ne croient pas à un geste de désespoir. Il s'agirait d'un assassinat parfaitement orchestré. Alors que les analyses toxicologiques du corps de Boris Berezovsky sont annoncées comme très longues, les résultats ne pourront être annoncés que dans plusieurs semaines, certains proches de l'oligarque s'interrogent sur ce décès brutal. Sa fille, Elisaveta, ne peut se résoudre à la thèse du suicide. Au fil des semaines, des mois, elle va tout faire pour démontrer qu'il s'agit d'un assassinat. Elisaveta s'interroge ainsi sur la présence d'un coup, un hématome détecté sur le dos de son père, ainsi que d'une côte cassée constatée lors d'une radiographie. La police et les légistes expliquent que ces marques sont certainement la conséquence de sa chute sur le sol de la salle de bain. Après s'être pendue, Elisaveta Berezovsky pose également des questions sur une empreinte papillaire non identifiée sur le montant de la cabine de douche. Aucune réponse ne peut lui être apportée. Cette empreinte n'est pas celle d'un policier, d'un secouriste ou d'un employé de maison. Il n'en faut pas davantage pour que les proches de la victime en déduisent qu'il s'agit de l'empreinte de l'assassin. Boris Berezovsky n'avait jamais pu admettre l'assassinat de son ami Alexandre Litvinenko. Il suivait pas à pas le déroulement des investigations de Scotland Yard et était prêt à venir témoigner lors de l'ouverture de l'enquête publique. Quand je lui ai parlé la dernière fois, Boris ne m'était pas apparu suicidaire. Il attendait avec impatience les suites données à l'affaire Litvinenko. Boris était un battant, le suicide ne figurait tout simplement pas dans son ADN, indique un proche de l'oligarque. Ce témoin réfute la présentation faite d'un homme au bout du rouleau, en proie à des interrogations. Une affabulation, dit-il. La veuve de l'ex-espion Alexandre Litvinenko, Marina Litvinenko, est exactement sur la même longueur d'onde. Selon elle, leur ami Berezovsky n'avait aucune envie de mettre fin à ses jours. L'ancien chef de la sécurité de Berezovsky, Sergueï Sokolov, s'interroge lui aussi sur cette mort inexplicable. Selon lui, l'homme d'affaires était protégé par plusieurs agents de sécurité. La propriété de Titnes Bank était truffée de caméras de vidéosurveillance. Le week-end de la mort, le domaine aurait été déserté par la sécurité. Les caméras auraient été en partie déconnectées pour une raison inconnue. Aucune image ne serait vraiment exploitable. La police anglaise ne retient pas les déclarations de Sergueï Sokolov faites à un journal anglais. Le fait est que Berezovsky vivait sous la menace à l'été 2012. Scotland Yard l'avait ainsi informé d'un projet d'assassinat. Le tueur arrivé à Londres était un Tchétchène. Par précaution, Boris Berezovsky s'était envolé pour Israël. Il y restera quelques semaines sous protection le temps que le suspect soit interpellé et discrètement expulsé du Royaume-Uni. Et voilà donc pour ces troublantes constatations que fait notamment la famille de la victime, la famille de Berezovsky. Marie Billon, correspondante RTL à Londres. Alors il y a une série comme ça de questions, de doutes, mais pourtant la police, ça bouge pas trop. On en reste vraiment accroché à la thèse du suicide, jusque-là en tout cas.
Absolument. La police, au début, pense qu'il n'y a aucune trace d'acte criminel, qu'il n'y a aucune trace d'homicide. Et pourtant, ils ont fait vraiment une enquête très, très importante dans la maison. Et puis, bien sûr, aussi, le corps de Berezovsky a été largement examiné dans l'enquête post-mortem. La police, elle, estime très rapidement que le meurtre semble hors de question, en l'attente, bien sûr, de la décision du coroner de la justice.
Oui. Alors, il y a eu la mort de Litvinenko. Vous savez, c'est cet ancien espion garçon qui a été empoisonné au polonium et qui a eu une agonie terrifiante devant les caméras du monde entier. Ça a marqué un tournant dans la vie de Berezovsky, parce que là, il s'est senti beaucoup plus fragile. C'était son ami le plus proche, presque.
C'était son ami et c'était quelqu'un avec qui il travaillait pour essayer de dénoncer le Kremlin. D'après plusieurs journaux britanniques, notamment The Independent, Berezovsky payait plus de 5000 euros par mois Litvinenko pour l'aider à dénoncer justement des anciens du FSB, l'État russe et d'autres oligarques russes. Donc clairement, quand Litvinenko a été attaqué, en tout cas c'est selon Berezovsky, était absolument persuadé, il s'est senti lui-même attaqué et on a bien vu que Berezovsky suivait de très très près toutes les évolution de l'enquête sur Litvinenko. Il était très impliqué lui-même.
Oui, il va effectivement raconter qu'il suit ses investigations. Philippe Comte, j'ai envie de vous dire, effectivement, il y a des questions, mais c'est normal qu'une famille se pose des questions. On ne croit jamais que quelqu'un puisse se suicider. Ça, c'est tout à fait dans la logique des choses. Et pourquoi ? Après tout, c'était peut-être quelqu'un qui était déprimé, qui sentait que ses amis mouraient autour de lui et qu'il n'avait plus goût à la vie, Berezovsky. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, mais si tous les gens qui font des dépressions se suicidaient, quand même, ça ferait beaucoup de monde. On peut être déprimé, on peut avoir vivre une période difficile et ne pas aller jusqu'au suicide. Moi, je ne crois pas à la thèse du suicide pour d'autres raisons qui tiennent à l'environnement familial et politique et puis au personnage lui-même de Berezovsky, son caractère. Berezovsky appelait sa mère trois fois par jour. 5 fois par jour même. Sa mère avait 90 ans, n'est-ce pas? Il l'appelait au pays, en Russie, pour prendre ses nouvelles. On ne le voit pas, on ne voit pas ce fils aimant laisser tomber sa mère de cette manière-là. Et puis, il y a une autre chose, on ne le voit pas, il avait, comme vous l'avez dit, ça a été dit, il avait pris le mort contre Poutine et son régime. D'ailleurs, dès l'année 2000, mais après les choses vont s'accélérer, et il va aller de plus en plus loin. Et je ne pense pas que, ce n'était pas dans son caractère de faire un cadeau pareil à son ennemi, c'est-à-dire, de se suicider.
De donc, disparaître,
oui, deux grosses raisons. Après, il y a l'enquête de police, évidemment, qui n'a rien trouvé, mais peut-être qu'on trouvera un jour, et certainement on ne trouvera rien. Mais il y a aussi autre chose que j'ajouterais, c'est que ce crime, il s'inscrit dans une longue liste de crimes de la Tchéka. La Tchéka, pour nos auditeurs, c'est la police politique créée par Lénine, qui s'appellera ensuite NKVD, puis KGB, et aujourd'hui FSB. Donc, moi j'utilise le mot tchéquiste, parce que la tradition n'a jamais été rompue, et elle n'a jamais été dénoncée aussi, par les hommes du FSB de la Russie de post-communiste. Et tout le XXe siècle est émaillé d'assassinats directs, ou d'empoisonnement, ou de morts suspectes. N'est-ce pas? Et attention, le principe est toujours le même, c'est un principe mafieux. On fait taire les traîtres. Et pour la mafia policière et financière qui a pris la main sur la Russie depuis 2000, n'est-ce pas ? Et qui s'appelle la direction russe d'aujourd'hui, Berezovsky, comme Litvinenko, comme avant eux Trotsky, comme Boris Savinkov. Oui, toute une histoire derrière. Ce sont des traîtres.
Mais ce que vous dites,
c'est un acte mafieux de vengeance.
Mais Philippe Comte, on les fait taire, mais on les fait taire avec vraiment du génie, parce que là, on ne trouve rien. À supposer que Berezovsky ait été assassiné, il n'y a pas de trace.
Oui, enfin, normalement, Navalny n'aurait pas dû survivre et on n'aurait rien trouvé. Si vous voulez, il existe depuis la création du laboratoire des poisons dans les années 20 sur ordre de Lénine, un centre de produits de plus en plus perfectionné.
Qui existe toujours aujourd'hui.
Bien sûr, je ne suis pas spécialiste de la question, mais qui permettent de faire disparaître toute trace des raisons de la mort. Les médecins concluent à une crise cardiaque et puis basta. Et ça, ces arsenaux-là de produits, toutes les grandes puissances en disposent, soyons pas naïfs, et les Russes en particulier.
Marie Billon, juste encore un petit mot. Le Scotland Yard, en tout cas la police antiterroriste, terroriste britannique n'a pas été très bavarde là-dessus. Ils sont jamais très disert dès lors qu'il s'agit d'une mort suspecte de ce type, d'une personnalité de ce type.
C'est effectivement potentiellement une question politique ou pas du tout, et dans ces cas-là c'est une question de suicide et ça n'est pas l'objet d'une enquête approfondie de Scotland Yard. Mais Scotland Yard essaye de ne pas toucher à la politique et n'a pas eu en tout cas d'indications qui le pousse de preuves, n'a pas trouvé de preuves qui le pousse à aller sur ce terrain-là. Donc non, Scotland Yard n'a pas et ne s'est pas beaucoup prononcé là-dessus parce que c'était l'affaire des médecins légistes. Il n'y avait que eux qui pouvaient vraiment révéler quelque chose de fondamental dans les raisons de la mort. Ils ont bien sûr fait beaucoup de prélèvements dans l'appartement, mais apparemment rien de concluant selon le coroner n'a été trouvé.
Avec cette scène aussi, Marie Billon, il faut l'expliquer en quelques mots, mais on va essayer de voir s'il n'y a pas des traces toxiques, des traces radiologiques dans cette maison. Les hommes vont passer au crible toute cette maison, les policiers.
Absolument, parce que le poison notamment, c'est quelque chose qui est et qui a été souvent utilisé dans des meurtres soupçonnés, en tout cas, d'avoir été commandité par le Kremlin. Donc, effectivement, puisqu'on pense que c'était un opposant au régime russe, il y a des
Bien
chances,
sûr.
Des possibilités pour que ce soit le même cas. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, beaucoup de prélèvements dans la maison.
Le fait est qu'à partir de la mort de l'ex-espion Litvinenko, les décès suspects se sont multipliés dans l'entourage proche de l'oligarque, comme si c'était lui et lui seul qui était visé. Dès le mois de novembre 2006, le Kremlin aurait décidé de s'en prendre à la nébuleuse Berezovsky. 1er novembre, Alexandre Litvinenko, que le millionnaire a installé à Londres, est empoisonné au polonium-210. Les services russes sont clairement identifiés comme les commanditaires et les exécutants de l'opération. Quelques semaines plus tard, c'est au tour d'un autre proche de disparaître, Youri Goloubev, cofondateur du géant pétrolier Yukos, s'est retrouvé sans vie dans son appartement londonien. Cet homme de 64 ans était en parfaite santé quand il s'est éteint dans son sommeil. Une crise cardiaque. 12 février 2008, Badri Patarkashvili, 52 ans, le plus proche associé de l'homme d'affaires, un géorgien opposé à Poutine, ne se sent pas très bien après le dîner. Il se retire dans la chambre de son appartement à Londres. On le retrouve mort une heure plus tard. Le décès est déclaré suspect, puis la mort déclarée naturelle par la police du Surrey. Crise cardiaque, là aussi. Au Daily Telegraph, il avait confié « J'ai 120 gardes du corps, mais je sais que c'est insuffisant. Je ne me sens nulle part en sécurité. » Après la mort de son ami Badri, Berezovsky se serait senti plus isolé que jamais et il aurait compris que le cercle de ses proches était en train de disparaître. L'un des enquêteurs indique « Il était condamné à une vie solitaire, il n'avait nulle part où aller. Il pressentait que quelque chose de grave allait arriver. » Interrogé par un journal, un ancien officier du MI6, le contre-espionnage britannique, confirme que les Russes sont passés maîtres dans l'art du crime parfait, ne laissant aucune trace suspecte sur le corps des victimes. Et voilà donc pour ces opérations spéciales, ces homicides. Philippe Comte, maître de conférence honoraire de langue et civilisation russe à la Sorbonne, ces homicides, ces opérations spéciales, c'est un mythe à la James Bond ou bien c'est une réalité ?
Non, pas du tout. Tous les grands services secrets du monde pratiquent ce genre d'opérations, mais il faut bien reconnaître que dans l'histoire du XXe siècle russe, soviétique puis russe, post-communiste, elle forme une série assez sinistre. Moi, je voudrais quand même rappeler l'assassinat de Boris Savinkov. Alors, c'est pas une opération spéciale. On va en 1925, cet opposant farouche au régime de Lénine et de Staline, qui a combattu les armes à la main, qui est un dur, hein, chef de guerre également, et tombe de la fenêtre du quatrième étage du siège de la police à Moscou, comme par hasard. On aura un nommé Raskolnikov, pas le héros de Dostoïevski évidemment, qui est assassiné à Nice en septembre 1939. Les généraux blancs qui sont enlevés.
On va hein? pas faire toute la série.
J'en ai
parce
pas
que...
pour longtemps. Hein.
Parce... mais je comprends bien. Je voudrais qu'on revienne un petit mot quand même avec Marie Billon, notre correspondante à RTL à Londres, sur cette série tout de même de morts étranges. La police britannique, les Britanniques vont s'interroger quand même sur ces morts qui sont pour le moins curieuses, cette série d'infarctus qui arrivent les uns après les autres.
Absolument, surtout que c'est une série qui finalement, on parle beaucoup de la fin des années 90, début 2000, mais il y en a eu la première, celle dont on se souvient le plus, c'est la mort d'un dissident bulgare, Gorgui Markov, qui avait été empoisonné avec un parapluie,
oui, le parapluie
empoisonné
bulgare,
qui avait été piqué à la cuisse. En 78, c'était, et il y a eu effectivement plusieurs choses comme ça, et puis c'est vraiment ressorti avec Litvinenko, mais plus récemment, en 2018, avec la tentative d'assassinat contre Sergei Skripal et sa fille Yulia dans une petite ville vraiment très tranquille de Salisbury, qui ils ont été empoisonnés avec un agent que seuls les services russes pouvaient avoir. Alors toutes ces tentatives d'assassinat, certaines qui ont réussi, d'autres qui ont échoué, il n'y a jamais eu de lien avec le Kremlin qui a été prouvé. Ah oui. C'est un peu le souci.
Et c'est compliqué de prouver le lien, parce que d'abord c'est éminemment politique. Philippe Comte, juste un mot là-dessus. Berezovsky, il a gêné Poutine, c'est une évidence. Mais est-ce qu'il avait encore des secrets contre Poutine qui pourraient être gênants ?
Non, je ne crois pas. Mais vous savez, cette opposition, elle naît dès le départ. Je ne pense pas qu'il n'avait pas de secret lourd. Mais simplement, la guerre est déclarée dès 2000, dès l'affaire du Koursk. La télévision... le sous-marin qui sombre. La télévision dans laquelle Berezovsky possède 49% des actions, ORT, fait un reportage début septembre 2000, qui est assassin pour Poutine. Et il ne le pardonne pas. Donc la guerre est déclarée là, et c'est Poutine qui va engager le fer, petit à petit, il va s'arranger pour déposséder Berezovsky de tous ses avoirs dans la chaîne de télévision, dans la société Sibneftia, n'est-ce pas, et dans d'autres sociétés aussi.
Et cette guerre ne va effectivement jamais s'éteindre, il va falloir attendre un an pour que le suicide de l'oligarque soit regardé sous un autre angle. Les constatations effectuées sur le corps de la victime laissent place à toutes les interprétations. Jeudi 27 mars 2014, le magistrat chargé du dossier Berezovsky, le coroner Peter Bedford, annonce le résultat des investigations. Il indique que, contrairement aux certitudes exprimées d'emblée par la police, celle-ci n'est plus sûre de rien. Le suicide n'est pas écarté, mais il n'est pas certain. L'homicide est possible, mais il ne peut être clairement établi. Position mi-chèvre, mi-chou qui ouvre la porte à toutes les supputations. Je ne dis pas qu'il s'est suicidé, je ne dis pas qu'il a été victime d'un homicide. Le niveau de preuve est tellement élevé qu'il est impossible pour moi de me prononcer, précise Peter Bedford. Une éclaircie pour la famille de la victime qui, lors de l'enquête, a témoigné de la soif de vivre de Berezovsky. Un homme inquiet peut-être, mais pas suicidaire. Il venait même de réserver un billet pour Tel Aviv, où il devait retrouver des amis et une nouvelle maîtresse. Elisaveta, l'une des filles de Berezovsky, déclare aux enquêteurs « Je crois que beaucoup de personnes avaient intérêt à ce que mon père meure. Il disait que Poutine était un danger pour le monde entier. Vous voyez le résultat. » Elisaveta ne partage pas les conclusions du légiste de la police qui estime que les indices concluant au suicide sont probants. Elle produit les conclusions d'un expert de renommée mondiale, le docteur allemand Bernd Brinkmann. Il a examiné le dossier photo de l'autopsie. Il affirme que la marque de strangulation sur le cou de Berezovsky ne correspond pas à celle d'une pendaison. Il s'étonne aussi que les premiers secouristes décrivent le visage de la victime empourpré, alors que celui-ci aurait dû être pâle. Marie Billon, correspondante RTL à Londres, la contre-autopsie privée, j'ai envie de dire, à la demande de la fille de Berezovsky, ça pose beaucoup de questions. Et puis ce revirement des autorités, même s'il est un peu mitigé, ce revirement, c'est compliqué.
Oui, c'est compliqué. En fait, cette contre-autopsie n'en est pas vraiment une, puisque l'expert que la famille a mandaté, le professeur Bernd Birkmann, n'a pas eu accès au corps de la victime. Il n'a pu examiner que des photos. Du corps de la victime. Et ça, évidemment, ça fait une grande différence. Quand les médecins légistes qui travaillent à Scotland Yard, eux, ont pu voir le corps et pensent que ce n'est pas un suicide, tandis que lui, qui n'a vu que des photos, et même s'il appuie beaucoup son raisonnement par des raisonnements tout à fait logiques et scientifiques, eh bien, c'est effectivement un petit peu moins lourd quand il dit ça au coroner. Le coroner ne peut que lui dire « Je pense, je comprends ce que vous dites et vous êtes un expert bien respecté, donc je ne peux que prendre en compte ce que vous dites. Malheureusement, je n'ai pas assez de preuves pour aller dans un sens ou dans un autre, d'où un petit peu la situation bancale où on s'est retrouvé. »
Philippe Comte, spécialiste de la Russie, on n'a pas voulu savoir ce qui s'est passé, ou il a été trop tard après, ensuite, pour le savoir vraiment ?
En 2013 ?
Oui.
Écoutez, moi je n'irai pas jusque-là parce que c'est porter une accusation qui est grave sur un système de policier judiciaire britannique
qui est efficace
et qui est réputé indépendant. Donc je me vois pas, je n'ai aucun élément pour affirmer que la Scotland Yard ait reçu des ordres du cabinet du Premier ministre britannique pour étouffer l'affaire. Bon, peut-être qu'un jour nous aurons des surprises, mais en tout cas moi je ne peux pas le dire et je n'ai aucun élément en la matière.
Ce qui est vraisemblable, et vous avez commencé à l'expliquer, compliqué, c'est que effectivement, on a cessé de le poursuivre, Berezovsky, du côté de Moscou. C'était pas une cible, j'ai envie de pas dire comme ça, mais c'était quelqu'un qu'il fallait peut-être mettre de côté.
Non, c'est pas ça. Je reprends ce que je disais tout à l'heure. C'est pas une question de secret qu'il détenait. C'est que une mafia ne punit les traîtres. C'est tout. C'est une vengeance mafieuse d'un État devenu un État mafieux. Depuis 2000, depuis la prise de pouvoir par Poutine, l'État russe est arraisonné par un système policier et mafieux dont nous voyons aujourd'hui, en ce moment même, les dégâts qu'il commet dans son voisinage proche, n'est-ce pas ? Et ce n'est qu'une étape, malheureusement. Donc la mafia italienne, comme la mafia albanaise, tout ce que vous voulez, a comme principe, on tue les traîtres, point final. Et même on peut les tuer plusieurs années après, mais là c'est pas vraiment, le conflit n'était pas éteint. Vous savez, entre 2000 et 2013, la mort donc de Bab Berezovsky, on l'appelle Bab en Russie, avec ses initiales.
Boris
Abramovitch Berezovsky, ça fait Bab. Bon, eh bien, c'est donc 14 ans de conflit entre deux grands squales, entre deux hubris. Le mot grec, c'est la démesure, n'est-ce pas ? La démesure de Bab, de Berezovsky, n'est-ce pas ? Qui avait, excusez-moi de l'expression, mais pété un câble avec sa fortune.
Ouais.
Et la démesure du nouveau président russe qui est à la tête de l'État. Seulement, le problème, c'est que Berezovsky n'a pas compris que c'était peau de terre contre peau de fer. Il n'a pas vu que Poutine, devenu président, c'était devenu un homme tout puissant et qu'on ne touchait pas la personne de Poutine. Or, il va lancer une sorte de mandat d'arrêt avec 500 millions de roubles à la clé en 2012 pour récompenser toute personne qui appréhendrait Poutine. Vous voyez, un tout petit peu en 2012.
Ouais, donc
précédé en 2005 par une déclaration à la radio Moscou où il disait qu'il travaillait à un renversement du pouvoir à Moscou en 2006.
Donc, ce que vous dites très bien, Philippe Comte, c'est qu'il a mis le feu.
Il ne s'est pas rendu compte que les rôles étaient maintenant inversés, n'est-ce pas ?
Le verdict sur la mort de l'oligarque reste donc ouvert, selon le propre terme de la justice britannique. Moscou va se contenter de rétorquer que l'intéressé n'existait plus depuis longtemps aux yeux du Kremlin. Après l'annonce de la mort de Berezovsky et alors que le Kremlin a été montré du doigt par les proches de l'homme d'affaires, le porte-parole de Vladimir Poutine avait tout de suite tenté de minimiser l'événement, indiquant que ce décès laissait le président russe indifférent. Boris Berezovsky a eu un rôle très important en Russie dans les années 90, avant l'arrivée de Poutine au pouvoir, indique alors Dimitri Peskov. Mais il n'avait aucune influence aujourd'hui en Russie. Son rôle se réduisait pour être de plus en plus proche de zéro. Traduction, il n'y avait aucun intérêt stratégique pour que le Kremlin veuille sa mort. Moscou prêtera tout de même à Boris Berezovsky le fait d'avoir écrit une lettre d'excuse à Vladimir Poutine pour lui demander avant sa mort pardon. Un courrier sur lequel les proches de l'oligarque se poseront beaucoup de questions, notamment sur son authenticité. Philippe Comte, spécialiste de la civilisation russe et qui connaissait parfaitement le pays et ses mœurs, et ses mœurs politiques notamment, accusation, il y a cette lettre qui est étonnante, du côté du Kremlin, on dit il nous a écrit, et finalement il voulait retourner en Russie, tout allait bien, et il s'excusait de son comportement auprès de Poutine, est-ce qu'on peut y croire ?
Absolument pas. Pour une raison simple,
voilà, c'est que
cette lettre n'a jamais été produite. C'est tout. Quand on parle d'une lettre, eh bien, on la publie. On demande l'autorisation aux parents, aux proches du défunt, et on publie la lettre, si ceci autorise. Mais on n'a rien eu de tout cela. Mais vous savez, Boris Savinkov, dont j'ai parlé tout à l'heure, avait aussi écrit une lettre avant d'être défenestré. On ne l'a jamais vue.
Donc ça fait partie des méthodes, ce que vous expliquez très bien.
Ça fait partie des mensonges pratiqués presque quotidiennement par les hommes qui ont arraisonné la Russie depuis l'an 2000, c'est tout.
Et sur le fait que Berezovsky ne pesait plus rien du tout en Russie, c'est vrai ou c'est faux ?
Ah oui, il pesait plus rien du tout. Mais non seulement il ne pesait plus rien, mais lorsqu'en 2000, le nouveau président, le jeune président Poutine, lance l'offensive contre les oligarques et les remet à leur place, il a l'assentiment massif de son peuple et il fait ce que tout chef d'État aurait fait à sa place, même sans être autoritaire. Il fallait que les impôts rentrent et il fallait faire cesser cette gabegie incroyable qui avait dominé dans une ambiance démocratique. il est vrai, est presque festive, les années 90. Hein. Il fallait que les impôts rentrent. Et à la Russe, il l'a fait en deux temps. La remise à leur place des oligarques de la presse, c'est-à-dire Berezovsky lui-même et Goussinski en 2000. Et en 2003, l'arrestation d'un des manias du pétrole, Khodorkovsky, qui lui, au lieu de partir à Londres, hein, comme l'a fait Berezovsky, est parti pour 10 ans de camp en Sibérie. Hein, mais parce que ces gens-là n'avaient pas payé pratiquement un rouble d'impôt pendant les années 90.
Mais ce qui est étonnant...
il fallait que ça se fasse. Oui. C'est-à-dire, n'importe quel chef d'État devait faire cela. Et après, c'est le balancier. Hein, le balancier était du côté de l'anarchie oligarchique des années 90. Et dans les années 2000, petit à petit, il est passé du côté du tout État et d'un régime de plus en plus autoritaire, voire même policier.
Mais ce qui est très étonnant et très marquant dans ce que vous racontez, Philippe Comte, c'est le fait, c'est cette espèce d'obsession qu'il faut absolument éliminer celui qui a été votre ennemi il y a même des années. Et on va finalement le poursuivre pendant des années. Ça, c'est très étonnant de la part d'un régime.
Mais ils se tutoyaient, Berezovsky et Poutine. Et lorsque Poutine est élu président, quelques mois plus tard, Berezovsky lui adresse une lettre qu'il fait publier, n'est-ce pas, dans la presse, dans sa presse, le journal Commerçant, et où il tutoie le président. Il ose tutoyer le président. Première injure, parce que Poutine a changé, si vous voulez, de nature.
Il est devenu
loin du seigneur maintenant. Et Berezovsky ne l'a pas compris. Ce qu'ont compris d'autres oligarques qui sont toujours en poste actuellement, ils ont bien compris que c'était fini, il ne fallait plus s'attaquer au président. Maintenant, c'était terminé.
Et ça a été l'erreur de
C'est l'hubris des deux côtés. L'hubris de Berezovsky, et maintenant on a affaire à l'hubris d'un Poutine qui se croit tout puissant.
Et ça a été l'erreur de Berezovsky, sans doute, de ne pas avoir assez de lucidité pour voir ce qui pouvait se passer. Marie Billon, correspondante RTL à Londres, 14 morts suspectes en Angleterre ces dernières années. Je parle là des morts d'oligarques russes, ou en tout cas de personnalités russes, ou d'opposants, ça fait quand même beaucoup. Et des morts naturelles.
Ou des morts naturelles, oui ou pas. Alors justement, c'est le souci, la plupart de ces décès peuvent avoir l'air naturels, que ce soit peut-être un oligarque qui abuse un petit peu de la bonne chair et de la boisson, qui a une crise cardiaque en revenant de son jogging, comme en 2012. C'est vrai que c'est assez possible, mais après, quand on fait une étude de son estomac, on retrouve effectivement des traces d'une fleur qui est empoisonnée. Et puis aussi un autre oligarque qui tombe de son balcon et s'empale sur la grille qu'il y a en dessous. Alors effectivement, apparemment, il n'avait pas parler de suicide juste avant, mais c'est quand même bien pratique que ce genre de personne décède quand même. On parle de 14 morts suspectes, ça fait quand même beaucoup ces dernières années, sans compter bien sûr les tentatives qui ont échoué. On parlait des Skripal il y a quelques minutes, mais il n'y a pas que les Skripal qui ont réussi à échapper à des possibles tentatives d'assassinat. Donc, et encore aujourd'hui, dans les soucis qu'il y a par rapport à la Russie et l'Ukraine, le gouvernement fait sa politique en fonction de la capacité du Kremlin d'attaquer des personnes sur son sol.
Un dernier mot, Marie Billon, parce qu'on arrive au bout de l'émission. L'enquête, on en est où aujourd'hui, cette enquête Berezovsky ?
Le verdict reste ouvert. Pour l'instant, il n'y a aucune prononciation dans un sens ou dans un autre. Ça fait partie de ces mystères plus ou moins élucidés, mais qui resteront pour toujours avec une sorte de point d'interrogation sur le dossier bien rangé.
Merci beaucoup Marie Billon, merci Philippe Comte d'avoir été les invités de l'heure du crime, merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.